Tentative de connexion. Vous êtes connecté. Bienvenue dans Script.
Bonjour. Bon, ça fait quoi, 3 mois que j'ai pas sorti d'épisode? En effet, et j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, je retourne au turban pour vous parler du CSS. En effet, toujours dans cette idée de parler des principaux langages du web, il est l'un des plus importants puisque c'est lui qui va rendre votre page web belle et agréable. Et on rentrera dans la partie programmation du domaine la prochaine fois, quand il sera temps de parler du JavaScript. Mais du coup, on va commencer par voir un peu qu'est-ce que le CSS, quelle est son histoire. Ensuite, on parlera un peu de comment il fonctionne techniquement, et on terminera par voir quelles sont les améliorations qui arrivent par rapport au CSS. Commençons. Le nom complet du CSS est Cascade Style Sheet, soit feuille de style en cascade. Ce nom n'a rien d'anodin, puisque le CSS est le langage utilisé pour styliser vos fichiers HTML et définit comment ils doivent s'afficher, et obéissent à des règles définies en cascade. C'est-à-dire que ces règles de style pourront être définies à plusieurs endroits et se chevaucher entre elles, mais s'appliqueront en cascade. Celles qui sont définies en premier peuvent être annulées par les dernières. L'idée d'avoir des outils de mise en page a germé dès le début du développement du World Wide Web, mais plus sur le côté utilisateur, où chacun peut décider du style à mettre en place. Mais c'est par la suite que le principe de feuille de style côté site arriva. Il y eut différentes propositions de la part des différents navigateurs ou acteurs du domaine. Par exemple, Payway proposa Stylesheet Proposal, Robert Reich quant à lui filait Stylesheet for HTML, et enfin les Cascading HTML Stylesheet de Akon Vumli. Il y a aussi une toute autre alternative proposée par Netscape travaillant sur les JavaScript-based stylesheet qui devait permettre de à la fois transformer les documents et de les mettre en page. Il y avait donc 3 problématiques importantes à étudier. Tout d'abord, est-ce que le HTML doit permettre juste la structuration des documents ou alors la structuration et la mise en page? Est-ce que la mise en page voulue par l'auteur du site doit avoir une plus grande importance que celle choisie par l'utilisateur? Et enfin, est-ce que la mise en page devrait-elle être faite par langage de description ou alors de transformation? Au final, c'est la version de Akon Vumli qui est sélectionnée, en partant du principe que le HTML doit s'occuper uniquement de la structuration, que l'utilisateur ait le choix final du style, et que ce soit un langage de description de mise en page et non de transformation. Mais ce qui fait que le CSS est spécial repose sur 2 choses. Déjà, c'est le premier langage à introduire le principe de cascade. Grâce à lui, on a un système de hiérarchie dans les styles appliqués, et surtout les feuilles peuvent venir de différents fichiers. Par exemple, vous pourrez avoir une feuille pour l'intégralité de votre site web et ensuite une par page. Ou autre manière de penser, vous pourrez avoir une feuille faite par vous, le créateur du site, et une faite par l'utilisateur avec, par exemple, les titres plus gros. C'est là sa grande force. L'autre spécificité du CSS est son principe de développement. En effet, il n'a pas été développé à partir de versions successives, comme la plupart des langages ou logiciels actuellement, mais par niveau. Pour une comparaison, les versions successives, c'est comme un train. Vous démarrez de la première gare, vous avancez gare par gare au fil des versions. Cela facilite la prise en charge par les navigateurs, puisqu'ils peuvent dire qu'ils supportent une version précise du langage. Mais le CSS fonctionne par niveau, comme un oignon. Le CSS 1 est le centre de l'oignon, le CSS 2 est une couche supérieure, et le CSS 3 est une couche encore plus grande. Donc le CSS 3 inclut toutes les possibilités du CSS 2, qui contient toutes les possibilités du CSS 1. Cela permet entre autres un développement parallèle des versions, mais ça implique aussi un sacré bordel. Le CSS 1 était là pour 2 choses, à la fois pour décrire son propre fonctionnement, comment doivent être exprimés les styles ou comment faire pour que certaines instructions mises en place par la suite puissent être ignorées par les premières versions, pour gérer la compatibilité descendante, et à la fois là pour définir quelques balises de base et surtout de la mise en page du texte, taille, alignement, police. Le CSS 2, quant à lui, a grandi les possibilités avec par exemple le choix des styles en fonction du support, le téléchargement et l'utilisation de certaines polices, ou encore de nouvelles possibilités de prendre en compte le choix des utilisateurs. Et enfin, le CSS 3, la version actuelle du CSS, est devenu complètement modulaire pour faciliter la mise en place des styles par les navigateurs. Il ajoute par exemple les transitions, les media queries, qui permettent de faire du style en fonction de la taille d'un écran par exemple, les fonds, les bordures ou encore les variables. Mais c'est là qu'on voit aussi un des problèmes qui se passe quand on développe un style en CSS. Il se peut que certaines balises qu'on veut utiliser ou qu'on pense compatibles avec tous les navigateurs ne l'aient pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on peut utiliser ou non, grâce à des sites comme canayuse.com que je vous mettrai dans la description. Il permet de vous dire à partir de quelle version une certaine balise HTML ou une propriété CSS est disponible sur tel navigateur, et à vous de faire le choix de l'utiliser ou non. Je vais aussi en profiter pour vous parler des préfixes d'attributs. Parfois, certains attributs ne sont pas encore des standards définis officiellement par le World Wide Web Consortium, l'entité gérant les langages du web comme l'HTML ou le CSS, mais puisqu'elles sont là depuis suffisamment longtemps ou définies de manière suffisamment claire, certains navigateurs vont déjà les mettre en place. Mais ils ne mettront pas directement l'attribut en question, puisqu'il n'est pas encore défini par le W3C, il va mettre l'attribut préfixé en fonction du navigateur. Par exemple, pour Chrome, c'est -webkit-, pour Firefox, c'est -moz-, ou encore pour Opera, c'est -o-. La bonne méthode à faire est de mettre à la fois l'attribut préfixé pour chaque navigateur la supportant, et ensuite la propriété sans préfixe. Comme ça, si le navigateur la supporte, vous n'aurez pas besoin de modifier votre code dans l'absolu. Bon, maintenant que j'ai bien parlé de son histoire et de ses spécifications, il est temps de passer un peu plus à son fonctionnement. Sachez que vous pouvez écrire votre CSS de trois manières différentes. Tout d'abord dans un fichier .css classique, que vous importerez grâce à une balise link dans la partie head de votre document HTML. Si vous ne voyez pas ce qu'est la balise head, je vous invite à écouter l'épisode 8 de ce podcast, où j'explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'HTML. Après, vous pouvez l'écrire directement dans votre fichier HTML grâce à une balise style, et enfin directement dans les éléments que vous voulez styliser grâce à l'attribut style et en séparant les attributs par une virgule. La première méthode étant privilégiée pour amener plus de clarté dans votre page principale. Et comment l'écrire ce fichu CSS ? Eh bien, le CSS va se composer de différents blocs appelés règles. Chaque bloc a la même tête avec un sélecteur et des attributs. Commençons par les sélecteurs. Ils vont définir à quel style s'appliquera ce bloc en particulier. Ça peut être un sélecteur qui s'appliquera à toutes les balises d'un type, auquel cas vous mettrez juste le nom de la balise. Vous pourrez aussi cibler une classe ou un ID en particulier, grâce au nom de celle-ci précédé d'un point pour une classe ou précédé d'un dièse pour un ID. Il existe aussi des sélecteurs un peu particuliers puisqu'ils vont permettre de soit sélectionner dynamiquement certains éléments ou certaines parties d'éléments. On appelle ça des pseudo-éléments ou des pseudo-classes. Les pseudo-éléments vont s'appliquer à certaines parties d'un élément. On les écrira collés à l'élément qu'ils complètent avec deux doubles points devant. Il y a par exemple le first line qui s'appliquera uniquement à la première ligne de l'élément ou le first letter. Il y en a aussi deux particuliers, le 2.2.before et le 2.2.after qui prennent chacun un attribut content. Ce content sera affiché avant ou après l'élément sélectionné. Quant aux pseudo-classes, elles s'appliqueront sur l'élément en entier et servent à préciser dans quel état il doit être pour que le style s'applique. Eux vont s'écrire avec simplement un double point devant. Il y a par exemple le 2.hover qui s'appliquera uniquement quand l'élément est survolé par la souris, le first child qui s'appliquera uniquement si l'élément est premier fils dans la liste des balises, ou enfin 2.focus qui s'appliquera aux éléments qui sont sélectionnés. Mais il y a aussi des pseudo-classes spéciales qui prennent des paramètres entre parenthèses. Par exemple, le 2.note qui s'appliquera seulement si le sélecteur entre parenthèses n'est pas vrai, ou le 2.nth-child qui s'appliquera uniquement si l'élément est le xième enfant. Je vous mets de toute façon dans la description la documentation de Mozilla exhaustive de tous les pseudo-éléments et pseudo-classes. Mais maintenant qu'on a tous ces sélecteurs, il serait temps de les combiner entre eux. Et c'est ce qu'on va faire avec les combinateurs. Je vais pas tous les citer, ça ne sert à rien, mais dans la description il y aura une documentation spécifique pour ça. Bon, partons du principe que vous avez deux sélecteurs, A et B. Si vous mettez A espace B, vous sélectionnez tous les éléments B qui sont enfants à n'importe quel niveau de A. A chevron B va s'appliquer uniquement pour les B directement enfants de A, et pour le reste, je vous laisse regarder directement dans la doc. Bon, maintenant qu'on sélectionne bien, il est temps de styliser. Je vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les attributs, il y en a trop et je les connais pas tous, honnêtement. Je vais surtout vous parler de ceux liés au texte et aux différents types d'affichage, parce que c'est ceux qui vous seront le plus utiles au début, je pense. Pour mettre en place un attribut, vous allez ouvrir des accolades après le sélecteur et mettre vos attributs. A chaque fois, ce sera un couple clé de points valeurs, parfois plusieurs, et se terminant par un point-virgule. Sachez qu'il existe par exemple l'attribut color qui permet de changer la couleur du texte. Il prend soit un nom de couleur en anglais, red, blue, green, un code hexadécimal précédé d'un dièse, ou encore une fonction RGB en lui passant les couleurs en nombre. On peut aussi utiliser font size pour définir la taille, en pixels par exemple, ou text align pour choisir l'alignement du texte, center, left, right, justify, ou d'autres. On peut aussi changer le type d'affichage d'un élément, il en existe plusieurs, et chaque type de balise a un affichage associé. Il en existe beaucoup, mais je vais déjà vous parler de ceux que j'ai le plus utilisés, que je trouve personnellement le plus utile. Il y a déjà le type bloc. Les blocs apparaîtront les uns en dessous des autres, à la suite. Par exemple, les balises P ou IMG sont des balises qui apparaîtront comme ça. Ensuite, le type inline qui fait que ça va s'ajouter directement à la ligne à la suite du bloc précédent. si c'est aussi un inline. Par exemple, les balises A, donc pour les liens, présentes dans un paragraphe sont du type inline. Après ça, si vous voulez cacher un élément, vous utiliserez display, deux points known. Et enfin, parmi celles que je trouve le plus utile, il y a display flex. Le style de display flex va transformer votre élément en flexbox. Je ne vais pas forcément expliquer tout le fonctionnement des flexbox ici, parce que déjà ce serait super long, et ensuite parce que j'ai pas encore compris toutes les subtilités. Donc comme d'habitude, vous trouverez dans la description un lien vers la documentation de Mozilla, qui est très bien fichue. Bon, les flexbox servent à agencer vos pages de manière flexible. Avant, quand on voulait mettre plusieurs éléments sur la même ligne, on utilisait des tableaux. Maintenant, on utilise flexbox. Vous allez pouvoir définir comment les enfants d'un élément doivent s'afficher. En colonne ou en ligne, par exemple, changer leur ordre, comment ils vont devoir prendre plus ou moins de place, ou encore comment vous voulez gérer leur alignement vertical. Bref, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, mais très complexe. Dans la description, je vous mettrai aussi un lien vers le jeu Flexbox Froggy, qui vous explique très bien les bases du Flexbox. Et voilà, c'est là que je m'arrête sur les fonctionnalités du CSS. Comme vous l'aurez compris, le langage est très important et très complet, mais il serait trop long de tout expliquer. Mais vous me direz, et si j'ai pas envie de faire du CSS, je fais comment ? Eh bien, il existe beaucoup de feuilles de style toutes faites qui vous fourniront tout ce dont vous avez besoin. Il y a par exemple Tailwind CSS qui inclut directement tout un tas de classes à ajouter pour styliser directement vos pages, ou encore Bulma qui fait plus ou moins la même chose. J'ajouterai aussi deux autres templates que je trouve cool, NES.css qui donnera directement un style rétro-pixel à vos applications, ou encore 98.css qui lui donnera un aspect de Windows 98. Voilà pour le CSS classique. Pour conclure cet épisode, je vais tout de même parler des améliorations qui commencent à arriver pour le CSS. En effet, sur certains points, le langage a des manques, et c'est là qu'arrivent des langages comme le LESS ou SASS. En gros, vous allez écrire vos feuilles dans ces langages, qui s'approchent tout de même énormément du CSS, mais ajoutent quelques idées de syntaxe. Soit vous convertissez ce code en CSS avant de publier le texte, soit il sera converti dynamiquement grâce à du JavaScript. Ils sont très puissants et peuvent vraiment vous simplifier la vie, en ajoutant par exemple des variables améliorées, des conditionnels, des répétitions, encore des fonctions utilitaires. Des choses dont manque le CSS. Et je pense qu'on a fait le tour globalement des cascades style sheet. Avant de terminer, je souhaitais quand même rappeler que le CSS est un langage qui évolue et que chaque attribut n'est pas forcément compatible avec chaque navigateur. A vous de voir si vous voulez les utiliser tout de même, au risque de vous couper d'une partie des utilisateurs, ou alors de partir sur des balises compatibles avec tout, en vous coupant de certaines des dernières capacités. Mais rassurez-vous, les dernières versions de Chrome et Firefox sont souvent sur la même longueur d'onde. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé de l'attente, mais les cours et le manque de motivation auront un peu pris le pas sur les podcasts. Du coup, à partir des prochains épisodes, je vais élargir un peu les contours de l'émission pour parler de technologie informatique et non plus uniquement de langage. Je pense que ce sera beaucoup lié aux technologies web parce que c'est celle qui m'intéresse le plus, mais je n'exclus pas de parler d'autres choses. La prochaine fois, on va donc parler du JavaScript, puisque c'est un langage super cool. Et ensuite, on parlera sécurité informatique avec les JSON Web Token. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont aidé en relisant cet épisode pour voir si je dis pas n'importe quoi, à savoir mon côté et POF. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est sur presque toutes les plateformes et sur YouTube aussi. Pour me soutenir financièrement, c'est sur utip.io/bigaston. Pour me suivre sur Twitter, c'est @bigaston. Je vous dis à la prochaine. Ciao!
Deconnection.